Aujourd'hui, c'est dimanche. Nous sommes le 28 février. Le journal Claire Checaglini. Bonjour Claire.
Bonjour Eric. Bonjour à tous. Les petits arrangements avec les consignes sanitaires en ce week-end de ciel bleu dans les Alpes-Maritimes. Pendant ce temps, Toulouse ferme les quais de la Garonne et la Moselle pourrait être classée zone à risque maximal mardi par Berlin. Un photographe du journal L'Union entre la vie et la mort ce matin. Il a été grièvement blessé hier lors d'un reportage à Reims. L'heure du bilan pour les 150 membres de la Convention Climat. Ils sont invités à noter le gouvernement aujourd'hui sur sa politique environnementale.
Les invités de la matinale, Patricia Martin, à 7h50, vous recevrez...
La présidente de la Fondation des Femmes, Anne-Cécile Melfer. Nous verrons ce que pensent les Français des inégalités de genre.
Et puis à 8h20, question ce matin à l'écrivain Philippe Solers pour sa double actualité littéraire. Deux livres, Agent secret aux éditions du Mercure de France et Légende qui paraîtra jeudi chez Gallimard.
France Inter.
Le confinement, Claire, eh bien, le week-end, ça fonctionne.
Déclaration, en tout cas, ce matin, du directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, dans une interview au JDD. Fonctionnement mis à l'épreuve du beau temps sur le littoral des Alpes-Maritimes ce week-end. Fonctionnement aux règles diverses selon les communes. À Menton, par exemple, les habitants pouvaient aller hier à la plage, contrairement aux Niçois. Et certains en ont profité parfois au-delà des limites administratives, comme l'a constaté Adèle Bossard de France Bleu Azur.
Soyons honnêtes, avec le vent et les gros nuages, il n'y a que des mouettes sur la plage, mais quelques passants sur la promenade du soleil, comme Élise, 5 ans.
On fait du vélo, on essaye de les toucher, et après c'est eux qui doivent nous toucher.
Avec la contrainte d'une heure de défoulement maximum.
À 4h15, on doit rentrer à la maison.
Elle le prend avec le sourire, ce qui n'est pas exactement le cas de Jean-Luc, installé face à la mer.
Eh bien, on profite de l'heure qu'on veut bien nous donner pour aller prendre l'air.
Vous vous contentez de l'heure alors ou vous faites que une heure de balade?
On doit dire la vérité ou pas? Il faut tricher un petit peu, hein, parce que si une heure, ça fait court. Hein. On fait une deuxième nettoyisation, voilà, tout simplement. Hein. Puis si on fait une troisième, on en fera une troisième. Hein.
L'attestation falsifiée, technique utilisée aussi par Véronique.
Bien sûr que je fais pareil. Donc je mets la date, là j'ai mis 14 heures. J'ai mon stylo dans la poche. Hein. Donc je fais hop, 5, comme ça, toc.
Comme ça, ça transforme le 14 en 15.
Oui, mais bon, c'est pas des grosses... Il n'y a pas de monde, je sais pas. Si on a les masques et tout, si on garde les distanciations, ça pose pas problème.
Véronique et son amie qui entendent bien griffonner à nouveau leur attestation aujourd'hui pour se balader longuement près du port.
Et mesures de restriction aussi à Toulouse où les quais de la Garonne auront des aires de promenade des Anglais aujourd'hui et le week-end prochain, ils resteront fermés. Décision de la préfecture de la Haute-Garonne pour éviter des rassemblements. Dans la ville rose, le taux d'incidence dépasse désormais le seuil d'alerte. Négociation aujourd'hui encore entre les élus mosellans et allemands de la Sarre et de la Rhénanie-Palatinat voisine. Ils vont tenter de trouver une solution pour 16 000 travailleurs frontaliers. Sans accord, un test PCR négatif de moins de 24 heures sera obligatoire pour passer la frontière franco-allemande depuis la Moselle à partir de mardi. Berlin va classer le département français en zone à risque maximal. C'est une information de France Bleu Lorraine Nord.
Et autre territoire touché par le variant sud-africain, comme la Moselle, la ville de Chambourcy dans les Yvelines.
Elle compte moins de 6 000 habitants et 13 cas de ce variant. Les écoles et le collège resteront donc fermés la semaine prochaine. L'heure est au dépistage. Le reportage de Pierre-François Plessis.
Mathilde est venue se faire tester avec ses enfants dans le gymnase Georges Gallienne aménagé pour l'occasion. Elle a appris la nouvelle du report de la rentrée vendredi soir.
C'est là qu'on a pris un petit peu conscience des choses parce qu'on s'est dit que voilà, si la rentrée était reportée, c'est qu'il y avait quand même des choses un petit peu graves qui se passaient. Mais les choses ont été prises en main et voilà pour le bien-être des habitants de Chambourcy, donc on est content.
Cette décision paraît aussi logique à Sylvie et ses deux enfants.
Qui dit cas de Covid en maternelle, dit les frères et sœurs en primaire, voilà. C'est un peu dommage pour les enfants parce qu'ils étaient pressés de reprendre l'école, mais bon, c'est mieux. C'est mieux de se faire tester et puis de prévoir le pire. J'essaie de pas trop me prendre la tête parce que déjà, ça fait un an que ça dure, on essaye de pas trop y penser.
Mais après un an de restrictions sanitaires, la résilience d'Agnès commence à s'effriter.
Je suis pas trop inquiète quant à ma santé ou à celle de mes enfants, mais c'est le système de vie actuel qui va encore en plus se resserrer, quoi. On va devoir, y avoir encore plus de restrictions, peut-être un autre confinement total, comme on a eu l'année dernière. Donc oui, c'est inquiétant pour ça, c'est inquiétant. Ça veut dire qu'au lieu de progresser, on régresse, quoi.
Un point sur la situation est prévu en milieu de semaine pour décider si oui ou non les écoles pourront rouvrir lundi 8 mars.
Le reportage de Pierre-François Plessis. Ce matin, le pronostic vital d'un photoreporter de l'Union reste engagé. Christian Lantenois a été grièvement blessé à la tête lors d'un reportage hier dans le quartier Croix-Rouge de Reims. Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte. Mélanie Cousin, depuis les réactions de soutien à ce photographe se sont multipliées sur les réseaux sociaux.
Habitants, confrères ou encore hommes politiques, l'agression a suscité une vive émotion dans la Cité des Sacres. Plusieurs associations sportives locales ont également réagi, elles qui ont l'habitude de voir chaque week-end le photoreporter au bord des terrains. Pensée et soutien à Christian Lantenois a par exemple tweeté le stade de Reims. Les élus locaux se sont également mobilisés sur les réseaux sociaux. Le maire Arnaud Robinet a souhaité au photoreporter un bon rétablissement et a exprimé son ras-le-bol face à des vauriens qui pourrissent la vie de nos quartiers. Une attaque qui a également ému des membres du gouvernement. Aujourd'hui, un photoreporter a été victime d'une lâche agression dans l'exercice de son métier, a tweeté Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture. Pour sa part, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, l'affirme. Les policiers sont pleinement mobilisés pour identifier et interpeller les auteurs de cette agression.
L'hommage de Kylian Mbappé, cette fois pour Aymen, ce jeune de 15 ans tué par balle vendredi à Bondy. L'attaquant star du PSG et originaire de cette ville de Seine-Saint-Denis a tweeté « Il n'y a pas eu d'au revoir pour nous, peu importe où tu es, tu seras toujours dans le cœur des Bondinois. » Deux frères de 17 et 27 ans ont été placés en garde à vue dans cette affaire. Ils se sont rendus à la police hier. Un différend opposait depuis un an les suspects à la victime. L'un de ces meurtriers présumés faisait de la boxe avec l'adolescent abattu dans une maison de quartier. Des milliers de Martiniquais mobilisés hier pour que la justice passe dans le dossier du chlorécone. Cet insecticide toxique pour l'homme est autorisé jusqu'en 93 dans les bananeraies, pollue encore les sols et les eaux des Antilles françaises. Mais les plaintes déposées en 2006 par plusieurs associations pourraient être classées en raison de la prescription des faits.
Le chlordécone, une pollution durable aux Antilles. En ce moment, le gouvernement est noté sur sa politique environnementale par les 150 membres de la Convention climat.
Dernier acte, en effet, de cette expérience inédite de démocratie participative, alors que le projet de loi climat et résilience est désormais bouclé. Mais certains participants sont franchement peu convaincus, à l'image de William Ocan, un architecte nantais d'une trentaine d'années que France Inter suit depuis le début. Il répond à Célia Kilray.
Est-ce vraiment à nous de donner une enquête de satisfaction avec une note de 1 à 10 sur ce qu'a fait le gouvernement ? Non, moi je crois plutôt à la réponse collective, à ce qui nous rassemble sur le sujet. Des citoyens comme moi qui voient le verre aux trois quarts vide ont besoin de beaucoup plus d'engagement, et notamment sur des mesures fortes. Pour moi, on a fait les premières étapes et les premiers pas, mais on voit pas encore la feuille de route complète. Et la feuille de route complète, c'est devenir neutre en carbone dans 30 ans. Et on est encore dans le flou, et je sens que le gouvernement a pas envie de s'engager sur le long terme. Quand on se passe des leviers les plus forts comme la rénovation globale, moi je trouve ça un vrai gâchis. On passe à côté d'un magnifique levier. Je pense qu'en plus, il y avait le moyen de se démarquer, de créer dans l'histoire un précédent sur le fait que les citoyens ont engagé tout un pays à changer de vision sur le futur. Et donc ça, je trouvais ça bien. Moi, je suis déçu.
Alors, quel est le sentiment des citoyens après cette convention climat de plus d'un an ? Réponse et dossier à retrouver sur le site franceinter.fr. Et dans la catégorie climato-sceptique, Donald Trump, de retour aujourd'hui en Floride à la convention annuelle des conservateurs américains, la CPAC, l'ex-président des États-Unis, toujours prêt à prendre sa revanche, sauf que depuis l'assaut du Capitole notamment, il n'est pas forcément attendu comme le messie, notamment par certains cadres du Parti républicain. Le décryptage de Loïc Loury.
Laissez-moi vous dire quelque chose, Donald Trump ne va pas disparaître vendredi. C'est Ted Cruz qui s'exprimait ainsi sur la scène de la CPAC. Le sénateur du Texas fait toujours partie des inconditionnels de l'ex-président. Pour autant, la position n'est pas unanime au sein du Parti républicain, particulièrement après l'assaut du Capitole le 6 janvier. Certains prennent donc de plus en plus leur distance, comme hier le sénateur Ben Sass. La politique, ce n'est pas cette vénération bizarre pour un seul type. Le parti pourrait se débarrasser des élus qui ne croient pas en Donald Trump. Mais je veux vous convaincre que ce serait un cancer pour le pays, en plus d'être terrible pour notre parti. Un parti divisé donc, mais surtout tétanisé par le pouvoir que conserve Donald Trump. La base lui est très largement fidèle et l'ex-président compte bien le rappeler aujourd'hui à la tribune. En d'autres termes, sans avoir besoin de se déclarer, il reste le candidat naturel pour 2024. Et gare à ce qui ferait sécession, à l'image des 10 républicains de la Chambre qui avaient voté en faveur de l'impeachment, parmi eux Anthony Gonzalez, un élu de l'Ohio depuis 2018. Donald Trump vient d'accorder son soutien à l'un de ses rivaux en vue des élections cruciales de mi-mandat en 2022. New York, Loïc Loury, France Inter.
Et toujours aux États-Unis, la 78e cérémonie des Golden Globes la nuit prochaine. Deux Français pourraient être récompensés. Florian Zeller pour l'adaptation de sa pièce Le Père avec Anthony Hopkins et Taha Rahim pour son rôle dans The Mauritanian. Vous écoutez France Inter, 7h40 et vous retrouvez Éric Delvaux.
C'était le journal de Claire Checaglini. Le temps de ce dimanche.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski, je lis votre dicton du jour à la Saint-Romain, c'est aujourd'hui. Sur la Gaule, le soleil garde la main.
Ah, tout à fait, Eric. Avec le maintien aujourd'hui d'un ciel souvent bien dégagé sur la plus grande partie du pays, le temps sera plus variable dans le quart sud-ouest entre les Pyrénées, les Charentes et le Limousin avec à la clé des ondées. Et puis dans le golfe du Lion, le vent marin sensible se prolongeant par un autant à 70 km à l'heure va porter un ciel gris et humide sur le Languedoc et le Roussillon. Les températures de l'après-midi, confortables pour l'époque, vont varier entre 10 degrés près de la Manche jusqu'à 17 autour de la Méditerranée. Avec dans l'intermédiaire 15 degrés prévus dans le sud-ouest et en Rhône-Alpes et 11 à 12 dans la moitié nord du pays où cet après-midi le vent de secteur nord-est deviendra sensible.
Jean-Michel Golinski de Météo France.